Je lui donne la parole.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Les vues d'Origène sur la résurrection pourraient être abordées de bien des manières. On s'est particulièrement intéressé à sa conception du corps ressuscité, compte tenu des objections qui lui ont été adressées quelques décennies plus tard par l'évêque Méthode d'Olympe. Mais cette question ne doit pas éclipser d'autres aspects de la réflexion d'Origène, et je me concentrerai sur l'un d'entre eux, qui est particulièrement important, l'exégèse des récits d'apparition. Je ne prétendrai évidemment pas rendre compte de tous les textes d'Origène sur le sujet. Je fais plutôt le choix d'interroger de manière privilégiée la grande apologie qu'Origène composa en 248 contre un ouvrage qui avait été écrit quelques 70 ans plus tôt, le Discours véritable du philosophe Sels. L'intérêt de ce choix, c'est qu'il nous permet de saisir sur le vif les argumentations opposées de deux penseurs qui sont l'un et l'autre héritiers de la culture grecque. L'un, Sels, développe des objections radicales contre les croyances des chrétiens. L'autre, Origène, s'attache à réfuter ces objections et par là même en vient à exposer plusieurs éléments d'une véritable théologie de la résurrection, théologie qu'il développe par ailleurs dans d'autres œuvres directement consacrées à l'exégèse de certains textes du Nouveau Testament. Il importe d'abord de présenter les objections de Sels sur la question des apparitions du ressuscité, et je montrerai ensuite comment Origène répond à son adversaire, d'abord du point de vue philosophique, puis surtout à partir des Écritures. Et le dernier point de la controverse, pourquoi Jésus ne s'est-il pas manifesté à tous ? Ce dernier point fera l'objet d'un développement spécifique. Je montrerai que l'argumentation du contre-Sels doit être ici complétée par des références à d'autres écrits d'Origène, en particulier son commentaire sur l'évangile de Jean. Qu'en est-il d'abord des objections de Sels à propos des apparitions du ressuscité? Ces objections font partie d'une longue diatribe que le philosophe grec Sels, attribue à un juif de manière fictive. Je ne chercherai pas ici à préciser ce qu'il en était réellement de la polémique sur le sujet, la polémique entre juifs et chrétiens sur le sujet. L'important, par contre, c'est de préciser le contenu même des objections qui sont ainsi formulées. L'attaque de Sels, par l'intermédiaire de ce personnage juif, c'est d'abord celle-ci, je cite, « Combien d'autres usent de ces contes merveilleux pour persuader leurs auditeurs naïfs et tirer profit de l'imposture ?» Les récits d'apparition seraient donc des fictions destinées à tromper ceux qui les écoutent. Et Sels invoque à l'appui des récits qui sont, selon lui, comparables dans le monde grec ancien à propos de personnages comme Pythagore ou Orphée. On note au passage que Sels, semble-t-il, n'ajoute pas foi à ces traditions du monde grec ancien. Et de fait, beaucoup de Grecs à son époque, de gens de culture grecque, avaient pris distance par rapport de telles traditions. Mais pour cette raison même, le comparatisme que Sels met en œuvre entend porter atteinte à la croyance des chrétiens. Leurs récits d'apparition, selon Sels, n'ont pas plus de vérité que ces fictions concernant Pythagore ou Orphée. Sels ajoute en effet, je cite, « Ce qu'il faut examiner, c'est si un homme réellement mort est jamais ressuscité avec le même corps. Pensez-vous que les aventures des autres soient des mythes en réalité comme en apparence, mais que vous auriez inventé à votre tragédie un dénouement noble avec le cri sur la croix quand il rendit l'âme, le tremblement de terre et les ténèbres ? » Voilà donc la première attaque, la première objection de Sels. À cette première objection s'en ajoute une deuxième. Aux yeux de Sels, les récits d'apparition ne reposent pas sur des témoignages fiables. Ainsi s'adresse-t-il aux chrétiens, je cite, « Vivant, dites-vous, Jésus ne s'est pas protégé lui-même. Mort, il ressuscita et montra les marques de son supplice, comment ses mains avaient été percées. Qui a vu cela ? Une exaltée, dites-vous, et peut-être quelque autre victime du même ensorcellement. Soit que, par suite d'une certaine disposition, il ait eu un songe, et qu'au gré de son désir, dans sa croyance égarée, il ait eu une représentation imaginaire, chose arrivée déjà à bien d'autres, soit plutôt qu'il ait voulu frapper l'esprit des autres par ce conte merveilleux, et par cette imposture, frayer la voie à d'autres charlatans. Il s'agit donc, pour Sels, d'ensorcellement. Marie-Madeleine aurait été victime de cet ensorcellement. Et Sels en esquisse une explication rationnelle. L'ensorcellement en question pourrait s'expliquer par les effets d'un songe qui aurait produit une représentation imaginaire. La personne ainsi ensorcelée aurait pris son désir pour la réalité, en quelque sorte, ou plus précisément, ayant vu en songe le Christ ressuscité, elle aurait tellement désiré le voir pour de bon qu'une représentation imaginaire se serait présentée à elle. C'est là, ajoute Sels, chose arrivée déjà à bien d'autres. L'expérience en question n'aurait donc rien d'exceptionnel, contrairement à ce qu'allèguent les chrétiens. Sels ajoute encore une troisième objection. Je cite, « Si Jésus voulait réellement manifester sa puissance divine, il aurait dû apparaître à ses ennemis, aux juges, bref, à tout le monde. » Cette nouvelle objection fait certes référence à une situation qui correspond bien au témoignage des évangiles, et Origène en conviendra lui-même, Jésus ne s'est pas manifesté à tout le monde. Mais Sels s'empare de ce constat pour porter atteinte, de nouveau, à la croyance chrétienne. Aux yeux de Sels, le fait que Jésus ne soit pas apparu à tous est un indice d'impuissance et contribue à prouver que Jésus n'est pas réellement ressuscité. Nous voyons la radicalité assez impressionnante des objections ainsi formulées par ce penseur Sels au IIe siècle, aux alentours de 175, semble-t-il. Face à ces objections, Origène, 70 ans plus tard, va naturellement souligner la réalité des apparitions, mais il aura le souci d'en rendre compte d'une manière qui soit intelligible au regard de la pensée grecque. En outre, tout en affirmant contre Sels que le Christ est réellement apparu, Origène rendra attentif à la portée spirituelle des récits d'apparition dans la ligne de ce que Origène développe longuement dans ses œuvres proprement exégétiques et particulièrement dans son commentaire sur l'évangile de Jean. En suivant l'ordre même du contre-Sels, je commencerai, c'est mon deuxième point, par résumer brièvement l'argumentation philosophique d'Origène en réponse à la seconde objection que je rappelais tout à l'heure, l'objection de Sels selon laquelle une femme exaltée et peut-être quelques autres auraient été victimes d'une représentation imaginaire à la suite d'un songe. Origène observe d'abord que, par une telle explication, Sels se montre adepte d'Épicure. Il ne dit d'ailleurs pas, quant à lui, l'existence de songes, comme ceux qui sont ainsi évoqués. Mais Origène refuse la théorie épicurienne qui interpréterait de tels phénomènes comme simples hallucinations. Origène invoque par contre un texte de Platon, dans le Phédon, un texte de Platon d'après lequel certains ont vu, autour de tombeaux, des images semblables aux ombres d'hommes qui venaient de mourir. Expression de Platon, hein, des images semblables aux ombres d'hommes qui venaient de mourir. Ces images viennent précisément de l'âme subsistant dans ce qu'on appelle le corps lumineux. Origène oppose donc à la théorie épicurienne de l'hallucination la doctrine platonicienne qui, elle, reconnaît à l'âme une réalité objective, en quelque sorte, ici évoquée comme corps lumineux. Il y aurait donc bien, chez Platon lui-même, un certain équivalent des récits d'apparition. L'argument est évidemment habile de la part d'Origène, Il est vrai que, de notre point de vue, il peut paraître ambigu, sinon même dangereux. Cet argument ne risque-t-il pas de laisser entendre que, au fond, la résurrection de Jésus serait simplement assimilable à la permanence de son âme par-delà la mort? Telle n'est pas, pourtant, la pensée d'Origène. L'argument philosophique n'est ici qu'un premier argument, et la suite du contre-sens montre bien qu'Origène n'entend pas s'en tenir là. Il va s'attacher à établir, bien au-delà de l'immortalité ou de la permanence de l'âme, il va s'efforcer d'établir la réalité même des apparitions et, à travers elles, le bien fondé de la croyance à la résurrection. J'en viens donc, troisième point, aux arguments scripturaires du contre-sens sur le sujet. Origène s'appuie ici directement sur le témoignage des évangiles. Cels mettait ce témoignage sur le compte d'une femme exaltée, Marie-Madeleine. Origène répond que cela ne ressort pas du tout de l'histoire écrite d'où il tire son accusation. Mais plutôt que de revenir ici sur l'épisode de l'apparition à Marie, Origène préfère argumenter à partir de l'apparition à Thomas au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Je cite Origène. Jésus, au dire de Cels, aurait provoqué une représentation imaginaire des blessures reçues sur la croix, sans exister réellement avec ces blessures. Mais, suivant les enseignements de l'évangile, Jésus appela près de lui l'un des disciples qui ne croyait pas et qui jugeait le miracle impossible. Il avait bien donné son assentiment, donc Thomas, avait bien donné son assentiment à celle qui assurait l'avoir vu, admettant la possibilité de voir apparaître l'âme de mort, mais il ne croyait pas encore vrai que le Christ fût ressuscité dans un corps résistant. D'où sa répartie, « Si je ne vois, je ne croirai pas ». Puis ce qu'il ajoute, « Si je ne mets ma main à la place des clous et ne touche son côté, je ne croirai pas ». Voilà ce que disait Thomas, jugeant qu'aux yeux sensibles pouvait apparaître le corps de l'âme en tout pareil à sa forme antérieure, par la taille, les beaux yeux, la voix, et souvent même revêtu des mêmes vêtements. Mais Jésus l'appela près de lui. « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » L'argument d'Origène tire sa force paradoxalement de l'incrédulité qui a d'abord gagné Thomas. Comment les bénéficiaires des apparitions auraient-ils pu être victimes d'une hallucination alors que l'un d'eux, Thomas, loin d'avoir été hors de lui-même ou ensorcelé, a au contraire refusé dans un premier temps de croire à ces apparitions? Il est d'ailleurs intéressant de constater sur quoi porte, selon Origène, cette incrédulité de Thomas. Celui-ci, en fait, croyait au moins que l'âme du Christ était apparue à Marie comme l'âme d'un mort, mais il s'en tenait là. On aurait presque envie de dire « Thomas, tel que le comprend Origène, partageait seulement la croyance de Platon. Il tenait une certaine apparition, celle de l'âme après la mort, mais il ne croyait pas encore vrai que le Christ fût ressuscité dans un corps résistant, comme dit Origène, un corps solide. Thomas, donc, croyait simplement que l'âme de Jésus était apparue, mais il ne croyait pas que Jésus fût ressuscité dans un corps réel. L'épisode de Thomas ne permet donc pas seulement de réfuter l'objection de Cels qui imputait les témoignages d'apparition à des personnes hallucinées ou ensorcelées, mais l'interprétation ici donnée confirme aussi que la résurrection est beaucoup plus qu'une simple permanence ou immortalité de l'âme après la mort. Dire cela revient à affirmer la supériorité de la résurrection par rapport à diverses formes d'apparition divine que rapportaient les traditions du monde ancien. Origène, en effet, n'oublie pas la première objection de Cels qui avait comparé les récits évangéliques aux contes merveilleux à propos de Pythagore ou d'Orphée. Origène oppose à Cels que la résurrection est, je cite, « un miracle supérieur à tous ». Et pour accréditer cela, il rappelle au passage le verset du psaume 15 qui qui était traditionnellement compris comme une prophétie de la victoire du Christ sur la mort, « Ma chair reposera dans l'espérance, tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Cependant, Origène ne s'étend pas davantage sur le fait que la résurrection a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Il préfère s'en tenir, dans le Contre-Sels, au témoignage même des évangiles, pour souligner la supériorité de la résurrection. Cette supériorité se manifeste à ses yeux dans la nature même de l'événement qui s'est produit pour Jésus. Sa résurrection, dit Origène, a mis Jésus dans un état intermédiaire entre l'épaisseur du corps avant la passion et la condition où une âme apparaît dépouillée d'un pareil corps. Le ressuscité, pour Origène, n'a donc plus exactement les caractéristiques du corps qui était le sien jusqu'à la mort. Et néanmoins, ce n'est pas simplement son âme qui apparaît, il se manifeste bien corporellement. Ce statut intermédiaire ressort de l'apparition à Thomas, qu'Origène évoque une seconde fois, mais ce statut intermédiaire ressort aussi de l'épisode des disciples en route vers Emmaüs. L'attention à ces récits empêche d'assimiler les apparitions de Jésus à des fantômes et elle empêche de présenter les témoins du ressuscité comme de simples visionnaires. Elle manifeste bien plutôt la supériorité du miracle, pour reprendre à nouveau l'expression d'Origène. Reste la troisième objection de Cels, j'en viens au quatrième point, la troisième objection de Cels que je rappelle, si Jésus était vraiment ressuscité, il serait apparu à ses ennemis même, et finalement à tout le monde. Origène reconnaît certes que, d'après les écrits du Nouveau Testament, le ressuscité n'est pas apparu comme au jour de son ministère public. Il le confirme même en invoquant plusieurs textes de l'Écriture. S'il est vrai que, d'après les Actes des Apôtres, Jésus apparut aux apôtres pendant 40 jours, dans les Évangiles, par contre, il n'est pas dit que Jésus ait été sans cesse avec eux. L'épisode de Thomas, remarque Origène, indique bien plutôt que Jésus n'était pas continuellement présent, puisque Jésus vint parmi eux 8 jours après. Mais le fait que le ressuscité ne se soit pas manifesté à tout le monde, comme dans le passé, est-il pour autant un indice d'impuissance, comme le voulait Cels, qui trouvait là un argument contre la croyance chrétienne? Pareille déduction est inacceptable aux yeux d'Origène. Mais le point important, c'est que Origène, justement, ne se contente pas ici d'affirmer la réalité de la résurrection malgré le caractère non public des apparitions. Le fait que le ressuscité ne soit pas apparu à tous conduit bien plutôt Origène à souligner que, dès avant sa passion, le Christ ne s'est pas manifesté de la même manière à tous. Je cite Origène. « Jésus, quoi qu'il fût un, était pour l'esprit multiple d'aspects, et ceux qui le regardaient ne le voyaient pas tous de la même manière. » Cette multiplicité d'aspects ressort des paroles « Je suis la voie, la vérité, la vie, je suis le pain, je suis la porte » et autres paroles sans nombre. Et la vue qu'il offrait n'était pas identique pour tous les spectateurs, mais dépendait de leur capacité. Ce sera clair si l'on examine la raison pour laquelle, devant se transfigurer sur la haute montagne, il prit avec lui non pas tous les apôtres, mais seuls Pierre, Jacques et Jean, comme les seuls capables de contempler la gloire qu'il aurait alors, et aptes à percevoir Moïse et Élie apparus dans la gloire, et à entendre leur conversation et la voix venue de la nuée céleste. On reconnaît ici la doctrine fameuse des épinoiai, des désignations, des appellations, doctrine souvent développée par Origène dans ses homélies ou ses commentaires de l'Écriture, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle Jésus pouvait être nommé, désigné de différentes manières, ce qui reflétait à la fois l'immensité de son mystère et la diversité des langages que les uns et les autres pouvaient tenir à son sujet. Mais puisque le développement est ici introduit par la question des apparitions, c'est surtout le thème de la vue qui est privilégié. Dès avant sa passion, écrit Origène, Jésus était vu de différentes manières selon la capacité de ceux qui le voyaient. Origène rappelle avant tout l'épisode de la Transfiguration qu'il a longuement commenté par ailleurs. Seuls Pierre, Jacques et Jean ont pu voir Jésus transfiguré. Dans la suite du Contre-Cels, Origène évoque aussi la différence entre les foules qui s'approchaient de Jésus et les disciples qui l'ont suivi sur la montagne. Jésus n'apparaissait pas identique aux foules et aux disciples. Et Origène invoque d'autres épisodes encore pour confirmer la même idée. Il est clair que ce développement ne concerne pas d'abord la vue physique de Jésus, ce développement considère plutôt la manière dont Jésus est perçu par ceux qui le voient. Et à cet égard, de fait, Jésus n'apparaissait pas identique à tous, et cela dès les jours de sa vie pré-pascale. Au fond, le raisonnement d'Origène peut être ainsi reconstitué. Le fait que le ressuscité ne soit pas apparu à tous n'est pas un indice d'impuissance, ni ne contredit sa victoire sur la mort, puisque dès avant sa mort, Jésus n'apparaissait pas à tous de la même manière, et cela valait pour les croyants eux-mêmes, car même parmi les croyants, eh bien, beaucoup voyaient seulement Jésus comme celui qui les délivrait de toute maladie et de toute infirmité, tandis que d'autres croyants pouvaient le voir plus intimement, et même, comme Pierre, Jacques et Jean, être témoins de sa transfiguration sur la montagne. On pourrait cependant objecter, malgré tout, avant sa passion, Jésus pouvait être vu physiquement de tous ceux qui le rencontraient, tandis que après sa résurrection, il ne pouvait être vu que de ceux à qui il apparaissait. Origène est bien conscient de cette objection. Et il répond justement à la fin de son développement. Je cite, « Comme nous élevons Jésus si haut, non seulement dans sa divinité intérieure et cachée à la foule, mais aussi dans son corps, transfiguré quand il voulait, pour ceux qu'il voulait, nous affirmons, avant qu'il eût dépouillé les principautés et les puissances et fût mort au péché, tous avaient la capacité de le regarder. Mais quand il eut dépouillé les principautés et les puissances et ne posséda plus ce qui pouvait être visible de la foule, tous ceux qui le virent auparavant ne pouvaient plus le regarder. C'est donc pour les ménagers qu'il ne se montrait point à tous après sa résurrection d'entre les morts. » La dernière phrase que je viens de lire laisse entendre que l'éclat de la résurrection aurait en quelque sorte aveuglé ceux qui n'étaient pas prêts à l'accueillir. Il est vrai que, à s'en tenir à cette explication, on se heurterait à une difficulté. Est-ce seulement un moindre avancement dans la vie spirituelle qui empêchait un certain nombre de croyants de bénéficier des apparitions? En réalité, une autre explication est requise, à savoir que l'événement pascal a introduit une différence majeure dans la corporéité de Jésus. Origène n'omet pas de faire droit à cette autre explication. Jésus est bien ressuscité, mais il n'a plus ce qui peut être visible de la foule, ce qu'Origène appelait plus haut l'épaisseur du corps, même si le corps du ressuscité n'en est pas moins un corps réel. Dès lors, le fait que les apparitions n'aient pas été pour tous, loin de discréditer la croyance à la résurrection, est au contraire, paradoxalement, un indice de son bien fondé. Le corps du ressuscité, tout en étant réel, n'est pas la simple reprise du corps antérieur. Et c'est d'abord pour cette raison que le ressuscité ne pouvait pas être visible de tous. Il reste que cette explication, si nécessaire soit-elle dans le cadre de la réponse à Cels, n'empêche pas Origène de tenir une autre affirmation à ses yeux essentielle, à savoir que, pour les témoins même des apparitions, le ressuscité se manifeste de manière différenciée selon leur disposition ou leur capacité spirituelle. Cette affirmation n'est pas développée comme telle dans le passage du contre-sels qui nous a retenu, même si elle est impliquée par ce passage, mais elle tient une place fort importante dans d'autres écrits d'Origène, notamment à propos de l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine et de la parole qu'il lui adresse « Ne me touche pas » en Jean 20, 17. D'après ces autres écrits, en fait, ce ne sont pas seulement les dispositions spirituelles de Marie qui sont en cause, c'est le fait que les apparitions sont seulement une étape dans l'itinéraire du Christ lui-même. C'est ainsi que nous lisons dans l'entretien avec Héraclite, je cite, « Notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Marie l'aborda et lui dit « Ne me touche pas ». Il voulait en effet que quiconque le toucherait le touchât dans son intégrité, afin que, l'ayant touché dans son intégrité, il éprouvât l'influence bienfaisante de son corps en son corps, de son âme en son âme, de son esprit en son esprit. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Il monte vers le Père, puis il va trouver ses disciples. Donc, il monte vers le Père, dans quelle intention ? Pour reprendre son dépôt. Le dépôt que Jésus avait remis au Père, c'est, pour le dire en termes pauliniens, le rang qu'il égalait à Dieu. Or, Jésus reprend ce dépôt, non pas dès le premier instant de la résurrection, mais seulement au moment où il remonte vers le Père. L'événement de la résurrection comprend donc, pour Origène, plusieurs phases. Comme on le lit en particulier dans un passage important du commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean, je cite, « Il appartenait à la résurrection de se produire au premier jour dans le paradis de Dieu. Elle appartenait à la résurrection, l'apparition de Jésus, lorsqu'il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Mais la plénitude de la résurrection, ce fut son retour auprès du Père. Et dans un passage antérieur du même commentaire sur l'évangile de Jean, Origène s'exprimait même de façon plus audacieuse encore, je lis, « Après avoir détruit ses ennemis par sa passion, le Seigneur, valeureux au combat et puissant, ayant besoin pour ses hauts faits d'une purification que seul le Père peut lui accorder, empêche Marie de le toucher en disant « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Mais va dire à mes frères, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque, vainqueur et triomphant, il s'avance, le corps ressuscité d'entre les morts, car comment faut-il comprendre autrement, je ne suis pas encore monté vers mon Père et je vais vers mon Père, alors certaines puissances demandent, qui est celui qui arrive d'Édom, de Bozor, en habits écarlates, si beau? Ceux qui forment son cortège disent aux gardes des portes célestes, « Chef, ouvrez vos portes, ouvrez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. » Il l'interroge encore en le voyant, la droite tachée de sang, s'il faut s'exprimer ainsi, et tout couvert des œuvres de sa vaillance, « Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges, et tes habits sont-ils comme le résidu d'un pressoir plein après le pressurage ?» Il répond alors, « Je les ai écrasés. » Origène convoque plusieurs textes des psaumes de l'Ancien Testament qu'il applique ici à cet épisode des évangiles. Origène ose donc, nous le voyons, parler ici de purification à propos du corps, à propos du Christ ressuscité. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'Origène méconnaisse la sainteté parfaite de Jésus. Mais puisque le Christ s'est chargé de nos infirmités, et qu'il a porté nos maladies et ôté le péché du monde entier, puisqu'il ressuscite en portant encore les marques de sa passion et de sa mort, il lui faut encore laver sa tunique dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Or, pour Origène, cela n'advient pas encore au moment de la résurrection, ni même au moment où le ressuscité apparaît à Marie, c'est justement pour cela qu'il dit à Marie « Ne me touche pas », mais cela n'adviendra que lorsque sera atteinte la plénitude de la résurrection, c'est-à-dire lorsque le ressuscité sera monté auprès du Père. Origène n'hésite donc pas à dire que, contrairement à l'opinion du grand nombre, la mort de Jésus n'a pas été son baptême suprême. Il y a encore un baptême au-delà de cette mort, c'est celui qui s'accomplira dans la phase finale de la résurrection. Je cite, « Puisque, après avoir accompli ses hauts faits contre les puissances adverses, il lui fallait, comme nous l'avons dit, laver sa tunique dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins, il monta auprès du vigneron de la vraie vigne, le Père, pour s'y laver, après être monté dans les hauteurs en emmenant des prisonniers, et pour redescendre ensuite avec les grâces de toutes sortes, les langues de feu réparties sur les apôtres, l'assistance et la protection des saints anges dans toutes leurs entreprises. » On peut être assurément déconcerté par cette exégèse d'Origène. Il faut d'autant plus redire qu'elle n'implique, aux yeux d'Origène, aucun manquement du Christ à la sainteté. Si Jésus doit être purifié ou s'il doit se laver, ce n'est évidemment pas parce que Jésus aurait été lui-même complice de quelque péché. Le thème de la purification ou du bain signifie plutôt ici la victoire complète et définitive sur la mort, et le sens premier du passage est de souligner que cette victoire, bien qu'acquise dès le matin de Pâques, n'est pas encore totalement donnée au moment des apparitions, mais qu'elle n'atteint sa plénitude qu'à l'heure où le Christ monte définitivement vers son Père. Je conclus. Les derniers développements dont j'ai fait état nous ont quelque peu éloignés du contre-sens, mais il était important de les signaler car ils contribuent à faire connaître la position d'Origène sur les récits d'apparition et, plus largement, sa théologie de la résurrection. La postérité de cette théologie origénienne n'a pas seulement subi le contre-coup des attaques qui ont été formulées à partir de la fin du IVe siècle à l'encontre des courants dits originistes, elle a été plus directement victime, plusieurs décennies auparavant, au tournant du IIIe et du IVe siècle, de l'argumentation développée par Méthode d'Olympe contre la conception originienne du corps ressuscité. Il ne s'agit pas pour moi ici de prendre position pour Origène contre Méthode, ou pour Méthode contre Origène. Je me contenterai simplement de dire que, d'un côté, Méthode a raison de tant insister sur la nécessaire relation entre le corps ressuscité et le corps antérieur de Jésus, mais que d'un autre côté, la pensée d'Origène ne peut pas être soupçonnée d'avoir méconnu entièrement une telle relation, tant s'en faut, et que, quelles que soient les limites de cette pensée originienne, elle a au moins l'intérêt de ne pas comprendre la relation entre le corps du Christ ressuscité et son corps humain, terrestre, sous forme d'une continuité trop immédiate. Mais quoi qu'il en soit de ce débat, on peut aujourd'hui se demander si l'opposition de Méthode à Origène n'a pas eu pour effet de concentrer le débat sur la nature même du corps ressuscité au détriment d'autres aspects pourtant essentiels de la réflexion originienne. J'espère avoir suggéré que, dans le cadre de son opposition au philosophe Cels, Origène se révèle avant tout comme un défenseur résolu de la foi en la résurrection de Jésus. Alors même qu'on lui a souvent reproché, par ailleurs, une propension à quitter la lettre des Écritures pour en donner plutôt des exégèses allégoriques, force est de reconnaître que dans le cas présent, l'auteur du contre-Cels se trouve conduit à souligner, face aux objections de Cels, la réalité des apparitions et, à travers elle, le bien fondé de la résurrection elle-même. Certes, nous l'avons vu, cela n'empêche pas Origène de proposer aussi des interprétations relevant de l'exégèse spirituelle, mais l'argumentation du contre-Cels rappelle que ces interprétations, loin de s'opposer à ce que dit la lettre des Écritures sur les apparitions du ressuscité, présupposent au contraire une pleine adhésion au témoignage de ceux et celles qui, d'après le Nouveau Testament, ont été bénéficiaires des apparitions. C'est seulement sur ce socle qu'Origène peut développer une exégèse plus profonde, qui ne se contente pas d'affirmer le fait de la résurrection, mais qui intègre une réflexion sur les dispositions intérieures des croyants et sur leur capacité spirituelle à progresser dans la connaissance du Christ vainqueur de la mort, les étapes de cette progression correspondant elles-mêmes au déploiement de la résurrection, qui ne se limite pas au surgissement du tombeau, ni même aux apparitions pascales, mais qui atteint sa plénitude à l'heure où le Christ, ayant échappé à la vue des disciples, remonte définitivement auprès de son Père. Je vous remercie.